Métropolez-vous.
Métropolez-vous.
Métropole et vous.
Métropolez-vous, une émission présentée par Éric Dupri.
Bonjour et bienvenue à l'écoute de Radio Présence pour un nouveau numéro de Métropolez-vous. Merci d'être fidèle chaque semaine à cette émission. Nous y avions abordé fin 2021 le sujet de la fibre optique et de son déploiement sur le territoire métropolitain. Toulouse Métropole ayant la particularité d'être son propre opérateur dans ce domaine, on sait que de nos jours, la qualité et la fiabilité des connexions Internet numériques sont cruciales pour les particuliers, mais plus encore pour les professionnels et les entreprises. Vous avez tous entendu parler de 3G, de 4G, de 5G, sans savoir forcément de quoi il s'agit. Toujours est-il qu'une grande métropole se doit d'avoir un réseau et une infrastructure de connectivité performant, a fortiori une grande métropole économique comme Toulouse. Il y a près d'un an, Toulouse Métropole a répondu à l'appel à projet européen HI5 et son dossier a été sélectionné justement dans le but de se doter d'une infrastructure de connectivité 5G de premier plan. Nous allons consacrer ce numéro à ce projet pour bien vous en faire comprendre les enjeux et tout ce qu'il va apporter à la métropole toulousaine. Et pour nous présenter les enjeux de la connectivité 5G à Toulouse, j'ai invité Bertrand Serpe, premier conseiller municipal délégué à la mairie de Toulouse et vice-président de Toulouse Métropole chargé de la transition digitale. Bonjour et bienvenue à vous aussi, monsieur le vice-président, dans cette émission dont vous êtes un fidèle.
Merci beaucoup, bonjour et bonne année. On peut encore se le souhaiter.
On peut encore se souhaiter une bonne année, effectivement, profitons-en. Alors, comme vous êtes en charge de la transition digitale à Toulouse Métropole, est-ce qu'on peut faire d'abord avec vous un état des lieux du déploiement de la fibre optique à Toulouse et dans les communes de la métropole, est-ce que toutes les zones sont correctement desservies aujourd'hui ?
Écoutez, alors on l'espère hein, que toutes les zones soient aujourd'hui déployées. Alors en fait, vous savez que la fibre, il y a une directive de l'État qui dit que d'ici 2025, 100%, c'est l'ambition, du territoire doit être fibré. Et puis progressivement, on sort effectivement ce qu'on appelle le cuivre, c'est-à-dire les réseaux en cuivre qui permettaient de téléphoner avant avec son téléphone classique. Ça, c'est une volonté de l'État. Aujourd'hui, si on parle de Toulouse Métropole, il y a deux zones, en gros, ce qu'on appelle les zones très denses, c'est-à-dire Toulouse Métropole et Intramuros, où là, on peut dire qu'on est pratiquement à 95%, un petit peu moins de 95% peut-être, d'endroits fibrés, de zones fibrées. Et puis après, ce qu'on appelle les zones AMI, qui sont les zones périphériques. Et là, on est pareil dans les, à peu près les mêmes pourcentages. Alors nous, on est assez, effectivement, entre guillemets, riche à Toulouse. On a la chance d'avoir un réseau d'infrastructures qui est bien doté. Et la fibre, quasi dans tous les quartiers. Alors, un petit bémol avec quelques poches, ce qu'on appelle les trous de la raquette, où il y a quelques endroits encore qui ne sont pas fibrés. Il arrive qu'on ait quelques demandes du style « Madame Aru, il n'y a pas la fibre, comment on fait ?» Et effectivement, on essaie de pallier ça avec les opérateurs, parce que ce sont les opérateurs qui fibrent effectivement la ville. Les opérateurs, on va dire que c'est 80% Orange, puisque c'est l'opérateur historique. Et puis, d'autres opérateurs bien connus comme Free, Bouygues ou SFR qui se partagent en fait le reste des zones. Alors avec une répartition géographique aussi. Alors sans entrer dans les détails, aujourd'hui on est assez bien pourvu à Toulouse, mais il y a encore une marge de progression pour arriver aux objectifs fixés par l'État.
Ah, il y a une particularité, comme je le disais, mais ça on en reparlera à Toulouse Métropole et son propre opérateur. Puis il y a un réseau local qui s'appelle The Fil et qui facilite l'accès à la fibre pour les professionnels.
Alors, The Fil, c'est une originalité toulousaine qui a plus de 20 ans. Et c'est une des premières métropoles en France qui a décidé d'avoir son propre réseau d'infrastructures métropolitain. À l'époque, ce n'était pas métropolitain. C'est-à-dire qu'on tire nos propres câbles et on fait passer notre fibre, mais à destination des entreprises. Ça a été décidé et fait à l'origine pour faciliter l'implantation des entreprises sur Toulouse et sur Toulouse Métropole. Et ce RIP, réseau d'infrastructures prioritaires, que l'on a mis en place à Toulouse, il est fort développé et on a une SPL qui s'appelle Société Publique d'Investissement Local qui est chargée de commercialiser auprès d'autres opérateurs ou auprès d'entreprises, effectivement, la fibre qui appartient à Toulouse Métropole.
Alors, juste pour donner un ordre de grandeur, il y aurait 1200 km de fibres déployées sur l'ensemble du territoire de Toulouse Métropole. Bon, ça paraît extrêmement conséquent, mais j'imagine que c'est le cas dans beaucoup d'autres métropoles de taille équivalente. 40 clients opérateurs, 1000 usagers finaux, donc sur les 37 communes de Toulouse Métropole.
Tout à fait. Il y en a une petite originalité, c'est qu'on a ouvert cette fameuse SPL aujourd'hui au capital de l'ensemble des 37 communes de la métropole toulouse. Ça veut dire que toutes les communes autour de Toulouse, qui font partie de Toulouse Métropole, ont la possibilité de passer par ce réseau d'infrastructures métropolitaines. C'est une vraie innovation, ça fait partie de la métropolisation de la métropole.
Merci d'avoir fait ce petit tableau de la situation concernant le déploiement de la fibre optique dans la métropole toulousaine. On sait maintenant ce qu'il en est, à ce jour en tout cas. Avant d'aborder avec vous le projet européen HI5, nous allons faire un petit détour, comme d'habitude, par l'actualité métropolitaine avec Corinne Saint-Félix pour son traditionnel flash d'information hebdomadaire. Métropole et vous, l'actu. Nous allons commencer ce flash avec une information qui concerne notre santé. Pour mieux prendre en compte les besoins des habitants dans ce domaine, le futur contrat local de santé métropolitain a été mis en place.
Et ce contrat local de santé doit permettre de coordonner les actions menées sur le territoire métropolitain et d'identifier les enjeux de santé prioritaires en cohérence avec les enjeux de santé du territoire. Cette mise en place s'appuie sur les expériences menées sur le territoire à Toulouse et Colomiers. Parmi les premières orientations possibles de ce contrat local de santé, l'accès aux soins et aux droits, la santé mentale, le parcours de soins des personnes en situation de handicap, la santé environnementale, la prévention et la promotion de la santé et la démographie des professionnels de santé.
La colère du monde agricole a des conséquences sur la voirie et l'espace public des communes où elle s'exprime. Après les manifestations des agriculteurs la semaine dernière, Toulouse Métropole a porté plainte.
Oui, le 16 janvier dernier, près de 350 tracteurs et plus d'un millier d'agriculteurs ont convergé vers le centre de la ville rose pour exprimer leur ras-le-bol face aux contraintes qui s'accumulent sur leur exploitation, devant les lourdeurs administratives, l'augmentation du tarif de l'eau et bien d'autres sujets. Cette manifestation a occasionné d'importantes opérations de nettoyage de la chaussée et d'évacuation de déchets déversés sur l'espace public, du fumier, des branchages, de la paille ou encore des pneus à Toulouse et à Balma et sur les routes aux abords de l'aéroport. Le montant des prestations est estimé à 90 700 euros par la métropole. Aux heures de travail des agents des services techniques, il faut ajouter le coût de la prise en charge de ces déchets par l'entreprise prestataire de Toulouse Métropole pour leur évacuation et leur valorisation. Devant ce constat, la collectivité a déposé plainte contre X.
Et puis, pour finir, un bon point pour Toulouse, classée très grande métropole, la plus attractive et résiliente de France. Un bon point vraiment, Corinne.
Eh bien oui, parce que selon la 7e édition du baromètre Arthur Lloyd de l'attractivité et résilience des métropoles françaises et de la transition des territoires, Toulouse remporte donc la première place et s'impose face à ses 5 concurrentes à la tête du classement de ces très grandes métropoles. La métropole capitalise sur sa spécialisation dans les activités métropolitaines supérieures, liées notamment au domaine de l'aéronautique, autour desquelles elle a su développer un écosystème de qualité, une réussite qui illustre son ouverture à l'international, son dynamisme démographique et professionnel, son fort taux de diplômés ou encore sa capacité à innover par le dépôt de brevets. Dernier lancement phare, l'ouverture à la Cité de l'Espace de l'Unexplorer, un simulateur de vol aérospatial ayant représenté un budget de pas moins de 16 millions d'euros.
Merci beaucoup à Corinne Saint-Félix pour ce flash d'information métropolitaine. Bertrand Serpe, vous pouvez bien sûr réagir aux informations de ce flash. La troisième concerne l'attractivité de la métropole toulousaine, qui vient donc d'être distinguée par le baromètre Arthur Lloyd. Et l'attractivité, ça repose entre autres sur un réseau numérique, sur une connectivité performante.
Oui, l'attractivité, bien sûr, c'est aussi les entreprises, c'est aussi l'entrepreneuriat, c'est aussi bien sûr le spatial, l'aéronautique, le numérique et tous les écosystèmes qui tournent effectivement autour de ces thématiques. Et puis c'est aussi comment, alors la connectivité c'est quoi? C'est comment aussi que les personnes et les entreprises puissent communiquer entre elles. Et pour les entreprises aujourd'hui, c'est très important d'avoir des réseaux de fibres fiables et de pouvoir, avec le développement du télétravail, mais aussi avec le développement des échanges internationaux. Et Toulouse fait partie d'une de ces grandes métropoles européennes qui a vocation à se développer. Donc on revient à l'attractivité économique, mais aussi par l'attractivité, le bien-être, la résilience. Le fait d'être dans une ville proche des Pyrénées et de la mer, c'est ça aussi l'attractivité. C'est aussi l'écosystème de la recherche, de l'innovation, les écoles, les universités. Tout ça forme un écosystème puissant qui donne envie. Et c'est plus 10 000 habitants sur la métropole chaque année. Donc, il faut bien sûr trouver le moyen de loger. Il y a des problèmes aussi de mobilité, d'où les grands projets que nous avons mis en place comme la troisième ligne du métro, et puis les mobilités douces. Et bien évidemment aussi, il faut effectivement pouvoir travailler sur son lieu de villégiature, sur son lieu où on habite. Et ça fait partie aussi des enjeux que nous avons dans les grandes métropoles françaises comme Toulouse.
Merci pour cette réaction à l'actualité métropolitaine et ces compléments d'information. Nous allons maintenant poursuivre notre discussion, nos échanges, en revenant au sujet principal de ce numéro, le projet européen HI5 et l'infrastructure de connectivité 5G de Toulouse Métropole.
Métropole et vous.
Métropole et vous, le focus de la semaine.
Métropole et vous.
La suite de Métropole et vous avec l'invité de ce numéro, Bertrand Serpe, premier conseiller municipal délégué à la mairie de Toulouse et vice-président de Toulouse Métropole, chargé de la transition digitale. Ce projet européen HI5, il consiste en quoi précisément? Comment Toulouse Métropole l'a-t-elle remporté? On s'est appuyé sur quels atouts pour y parvenir?
Alors HI5 d'abord c'est quoi? High connectivité, 5 comme la 5G, c'est finalement, l'idée de se doter à Toulouse d'une 5G donc souveraine. Alors, vous savez, il a existé la 2G, il a existé la 3G, c'est des vitesses.
On arrive à la cinquième génération.
La cinquième génération de connectivité. Et ce projet 5G, il est né d'une expérimentation qui s'appelle Vol de nuit, qu'on a expérimenté sur le site de Montaudran. L'idée, c'était effectivement d'avoir la possibilité de se doter, comme nous étions dotés d'un réseau d'infrastructures métropolitaines indépendant, d'une connectivité souveraine aussi. Et il y a eu un appel à projet donc, européen auquel nous avons répondu, que nous avons gagné, avec une dotation de mémoire de 2,8 millions d'euros. C'est des fonds FEDER essentiellement, donc de l'Europe. Et la métropole a participé à hauteur de 4 millions. Nous avons réalisé ce projet en co-construction avec le privé. Donc c'est une co-construction publique-privée. Il y a une société qui s'appelle Alsatis qui effectivement a participé à ce projet. Et donc l'idée c'est de se doter de cette 5G souveraine pour permettre de communiquer. Alors communiquer comment? Faire communiquer les objets entre eux, ce qu'on appelle machine-to-machine, M2M. Faire aussi communiquer effectivement les entreprises parce que l'idée c'est d'aller aussi bien plus loin. Et puis ça permet notamment lorsque on accueille, alors des exemples très concrets, lorsqu'on accueille des grands événements à Toulouse par exemple, comme on a accueilli effectivement
la Coupe du monde de rugby,
de pouvoir accompagner les communications. C'est pas se suppléer à Orange ou à d'autres sociétés qui font ça très bien, c'est de travailler aussi avec eux en complémentarité quand il y a des flux très importants pour pouvoir communiquer de façon intelligente sur les événements, sur effectivement les différents sites que nous gérons. Mais ça peut avoir des incidences à la fois sur le milieu culturel, mais sur l'énergie, sur le patrimoine, enfin... C'est aujourd'hui une façon de pouvoir être complètement indépendant et souverain dans nos façons de communiquer à travers cette 5G souveraine.
Donc si j'essaye de résumer, le but c'était de se doter d'infrastructures 5G sécurisées, ça c'est...
Ah oui, sécurisées, ça j'ai oublié, c'est très important. Oui,
très important.
Oui, sécurisées, très important, parce qu'aujourd'hui, on le voit bien avec ce qu'on appelle la cybersécurité, il y a des hackings de plus en plus, et donc nous on voulait vraiment avoir un réseau 5G indépendant, souverain, sécure. Donc
c'était et de très haute performance, bien sûr, et de très haut débit.
De très haut débit, bien sûr.
Pour pouvoir
5G, c'est du très haut débit.
Voilà,
on travaille sous de la 6G, sur d'autres choses, mais pour l'instant, c'est la mesure standard, on va dire, qui est du très haut débit.
Alors, qu'est-ce que ça permet de développer comme nouveaux usages, cette technologie 5G, ces infrastructures 5G sur le territoire métropolitain?
Il y a plusieurs cas d'usage qu'on peut... J'ai parlé tout à l'heure dans le cadre d'événements, mais ça peut être aussi, par exemple, de faire communiquer les lampadaires entre eux. Vous savez, les lampadaires dans les rues, c'est ce mobilier urbain. Ça permet aussi de connecter des données. Ça permet aussi de savoir, par exemple, dans un parking, dans le centre-ville, combien il y a de places qui restent libres ou pas libres. Et quand vous arrivez dans la ville, que vous ne soyez pas obligé d'arriver jusqu'au parking du Capitole et puis vous apercevoir qu'il n'y a plus de place, donc il faut repartir. Donc ça permet aussi de réguler des flux. Et ça permet aussi d'alimenter... avec toutes ces données qu'on collecte avec cette 5G souveraine, d'aboutir finalement à l'IA, l'intelligence artificielle, et de pouvoir croiser des données pour faire des analyses prédictives pour prévoir justement les bouchons, la circulation, les parkings libres dans tel ou tel endroit ou pas, et pouvoir ainsi maîtriser quelque part ce qu'on appelle notre bilan carbone, puisque moins il y aura de voitures qui s'engageront dans Toulouse pour des raisons qui ne sont pas fondées, plus effectivement ça permettra de mieux respirer et d'avoir moins de pollution dans le centre de Toulouse, par exemple.
Ça, ce sont les grands enjeux. Est-ce qu'il y en a d'autres tout de même, notamment pour les entreprises en termes d'aménagement numérique aussi du territoire,
hein? Ça, c'est le premier objet, finalement, c'est la version comment la collectivité peut utiliser cette 5G et peut effectivement, à travers ces cas d'usage, ce qu'on appelle faire de l'analyse prédictive. Mais bien sûr, ce qu'il y a derrière, c'est les entreprises. On parlait d'attractivité, on parlait d'économie, on parlait de tous ces sujets-là. Et finalement, cette 5G souveraine va aussi aider les entreprises qui vont s'implanter sur le sol toulousain ou les start-up. Tout simplement aussi pour leur apporter des services plus puissants, plus sécurs, vous l'avez dit, et plus facilement abordables.
Ça veut dire que ça s'appuie donc sur une infrastructure numérique, mais très complète, des fibres, des routeurs, des salles techniques aussi.
Ben, concrètement, il y a un réseau d'infrastructures métropolitaines, on en a parlé, c'est quoi? C'est des tuyaux dans lesquels on fait passer de la fibre, donc ça existe déjà, on en a parlé, c'est notre 1200 km. Et puis après, il y a effectivement des petites antennes que l'on peut mettre à faible débit, qui on met sur des mâts, par exemple, je parlais tout à l'heure de l'écrinage intelligent pour collecter des données, qu'on peut disséminer sur divers endroits de la métropole, et tout ça permet de communiquer entre eux.
Alors, je pense que c'est très important aussi pour les transports publics et pour Tisséo, entre autres.
Alors, pour Tisséo aussi, parce que bon, vous savez qu'il y a le projet quand même de la troisième ligne, la fameuse ligne C, et cette ligne C, elle va se doter effectivement, alors comme on a mis en place la 4G dans le métro à l'époque, donc ça veut dire qu'on peut communiquer aussi maintenant dans le métro, c'était une innovation assez performante, tous les opérateurs nous ont accompagnés pour effectivement travailler sur ce sujet. Il y aura la 5G aussi dans le métro, dans la future ligne du métro, qui pourra donner des usages beaucoup plus importants qu'aujourd'hui, que simplement téléphoner ou regarder ses messages ou écouter de la musique. On pourra, par exemple, je ne sais pas, visionner des vidéos avec des écrans, dans le micro, de l'information. Alors tout ça, X pieds sur terre, quoi, je veux dire.
Oui, oui, bien sûr. C'est ça qui est la performance. Invisible,
la tout performance à fait invisible. Est complètement sécurisée et complètement propriété de la collectivité. Ça veut dire avec l'idée que nul ne peut diffuser ce qu'il veut sur ces réseaux-là.
Oui, alors il y a la vidéoprotection aussi dans le métro, justement.
Ça, la vidéoprotection, oui, la vidéoprotection. Alors ça existe déjà, il existe déjà aujourd'hui des caméras, ce qu'on appelle les caméras 4G. Donc là, on peut imaginer de la vidéoprotection avec des caméras 5G encore plus puissantes, encore plus performantes, encore plus sécures pour protéger les Toulousains.
Le calendrier prévu pour les étapes du projet,
voilà, ça a commencé l'année dernière, en 2023. Donc là, en 2024, on devrait être prêt pour les premières. Alors, il y a toujours deux phases. Il y a toujours la première phase qui est la phase d'expérimentation, où on teste, on regarde. Et puis après, il y a la phase de déploiement. Donc on espère en 2024, qu'on pourrait, comme 2025, déployer tous ces usages.
Voilà, d'ici fin 2025, tout sera la panoplie, si on peut dire, sera complète.
Voilà.
Financement du projet, alors vous avez cité, donc il y a eu 2,8 millions grâce au projet HI5 de l'Union Européenne. Ouais. En tout, il y a eu 4,4 millions, donc ça veut dire aussi que la Toulouse Métropole elle-même, évidemment, a mis la main au porte-monnaie. Et puis, il y a aussi un Alsatis. Qu'est-ce que c'est, Alsatis?
Alsatis, c'est une entreprise toulousaine. Je vous ai dit que c'était un projet, une co-construction public-privée, qui nous accompagne, effectivement, et qui ont investi 500 000 euros de mémoire, et qui, effectivement, nous accompagne dans la réalisation de... Alors, nous, on est plutôt coordinateur du projet, et Alsatis nous aide dans la faisabilité. Vous parliez tout à l'heure d'infrastructure. Vous parliez tout à l'heure, effectivement, comment faire connecter l'ensemble des objets. Voilà, c'est Alsatis qui nous aide là-dedans.
Et la suite, ce serait quoi? Les étapes suivantes? Vous parlez de la
Alors,
6G, ça c'est à quel horizon?
Non, mais
parce suite, que ça va tellement
alors,
vite.
La suite, elle est plus presque philosophique, j'avais envie de dire. La suite, c'est justement comment les collectivités, et ça c'est une réflexion qu'on a au niveau national, comment les collectivités peuvent donner du service public à travers le numérique, à travers la data, à travers les usages, et comment on peut imaginer cette souveraineté publique des données, de la data, de la donnée, c'est ça en fait, finalement, c'est surtout juste des objets qui nous permettent de communiquer, d'avoir de la donnée qui peut aller d'un point A à un point B. Comment on peut créer des nouveaux services publics, gratuits ou à moindre coût, en monétisant finalement la donnée publique et la donnée privée, avec de l'intelligence artificielle. Et ça, c'est un peu... On est au balbutiement, parce qu'il y a la loi qui est... J'en ai déjà parlé une fois dans votre émission. Loi qui n'est pas tout à fait encore au point, puisqu'on se base sur la loi de la République numérique qui avait été, dont on avait participé il y a quelques années avec la ministre Axelle Lemaire, qui donnait un petit peu l'état des lieux, et comment utiliser les données, l'open data, et comment les collectivités, les entreprises peuvent utiliser ou pas. Je suis très synthétique, hein, sur les données publiques et les données privées, anonymisé bien évidemment, et l'idée c'est d'aller plus loin et de voir comment ces données-là, public-privé, on peut les utiliser pour créer des services publics pour les Toulousains par exemple. Parce qu'aujourd'hui, les collectivités territoriales ont de moins en moins de financement, tout le monde le sait. La suppression, qui est quelque chose de bien à titre personnel, mais les collectivités, les empêcher en point de financement de la taxe d'habitation, fait des ressources en moins pour les collectivités qui ne sont pas vraiment compensées, mais ce n'est pas le débat ici.
Bon, ça a déjà été abordé,
ça a déjà été abordé
sur d'autres sujets.
Sur d'autres sujets.
Effectivement,
mais c'est une réalité, c'est une réalité. La compensation,
oui.
Elle n'est pas
et
totale.
Non.
Et donc, à un moment ou à un autre, il faudra bien trouver des moyens de financer parfois des innovations ou des services publics voilà, différents, de différentes façons. Et je pense que la monétisation, finalement, de ces données a... du moment qu'elle est encadrée, du moment qu'elle est coordonnée, peut-être une source une source de financement de ces services publics. Donc voilà, l'idée c'est comment avoir nos réseaux souverains, cette 5G souveraine, ce réseau d'infrastructures métropolitaines, cette fibre, donc finalement c'est ça, cette fibre privée qui appartient à toutes les Toulousains, hein. Et puis pour être indépendant des GAFAM, des Google, des Amazon et de tous ces gens qui finalement sont très utiles à l'écosystème, mais qui aussi nous piquent nos données, comme on dit, qui peuvent être parfois en danger.
Et là on arrive justement à ce volet sécurisation, la circulation de l'information, des données.
Les données, la sécurisation, la cybersécurité et l'intelligence artificielle qui vont ensemble. Et l'idée qu'on a eue de développer ce campus du Grand Matabiau, derrière la friche, derrière la gare, qui sera consacré essentiellement à l'intelligence artificielle et la cybersécurité, avec des entreprises, avec de la recherche, de l'innovation, des start-up, des grands groupes qui vont venir s'installer pour effectivement faire de ce lieu, on se donne à 5 ans, un haut lieu européen de l'intelligence artificielle, de la cybersécurité. Avec l'idée aussi, pour terminer, d'installer un campus cybersécurité, un projet porté par l'État, par les régions et les métropoles, et d'en faire le siège donc à Matabiau, donc derrière la gare Matabiau, quand les bâtiments seront construits, pour travailler avec les entreprises, avec les écoles, avec ANITI, vous savez, la recherche interdisciplinaire sur l'intelligence artificielle, sur ces sujets-là, parce que c'est des sujets qui vont devenir le quotidien des Toulousains.
Ah, vous parlez d'intelligence artificielle, la semaine prochaine, je vais recevoir Laurent Chicoineau, qui est le directeur du Quai des Savoirs, qui s'apprête à ouvrir sa grande exposition annuelle consacrée justement à l'intelligence artificielle. Et vous parliez de philosophie, on va parler d'éthique, si vous voulez, juste pour terminer, je voulais savoir comment les collectivités, et notamment les élus comme vous, qui sont en charge de la transition digitale, de toutes les questions du numérique, sont impliqués dans les réflexions actuelles en termes d'éthique.
Ah ben, c'est très simple, on est très au fait et très impliqué de ce sujet, et c'est une réflexion, pas plus tard que ce matin, on avait une réunion effectivement au niveau de national de France Urbaine, qui est l'association des grandes métropoles françaises, avec l'association des communes de France aussi, et les interconnecter sur ces sujets, c'est-à-dire que les élus responsables de ces sujets sont en train de réfléchir ensemble comment avoir une éthique de l'IA. En gros, c'est comment l'IA qui nous arrive un peu comme ça tous les jours. Alors, il y a effectivement l'exposition du Quai des Savoirs qui pourra culturer les citoyens. Qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle? Et puis, il y a les problèmes ou les solutions derrière. Comment utiliser l'intelligence artificielle? Quelles sont les limites de l'intelligence artificielle? Quelle est l'éthique derrière l'intelligence artificielle? Donc, ça, c'est vraiment des sujets très importants qu'on est en train de réfléchir. Et on est en train de mettre en place des commissions pour essayer de faire des propositions comme une charte qu'on proposerait au gouvernement, parce qu'il faut aujourd'hui encadrer l'IA. Alors, ça existe déjà, mais pas suffisamment. Les JO 2024 sont effectivement un bon laboratoire d'usage. On parle de la reconnaissance faciale, par exemple. On parle de sécurité, de cybersécurité. Comment l'intelligence artificielle va nous aider et va effectivement peut-être pousser les limites de la liberté des uns et des autres, c'est quelque chose à voir. Donc voilà, il y a beaucoup de sujets qu'il faut aborder, qu'il faut encadrer. L'IA générative, ce qu'on appelle l'IA générative, c'est-à-dire qui génère des contenus, voilà, quelles données, à partir de quelles données, ces données-là, est-ce que effectivement c'est toujours l'humain qui les maîtrise ou quid des deepfakes, ce qu'on appelle les deepfakes, les données, les mauvaises données, les fausses nouvelles plutôt. Voilà, donc comment on peut vivre demain dans ce monde? En tout cas, nous les collectivités, on a une responsabilité. Cette responsabilité, c'est d'encadrer, de faire en sorte que les citoyens soient protégés
et informés.
Alors informés, comme on va faire à Toulouse avec l'exposition sur l'IA grand public, et puis ensuite protéger, parce que derrière, il faut faire en sorte que la liberté, les libertés publiques existent toujours pour tous les citoyens et pour tous les Toulousains.
Et que nous soyons tous protégés de certaines dérives. C'est la fin de ce numéro de Métropole et vous. Merci de l'avoir suivi et grand merci à Bertrand Serpe d'en avoir été l'invité. Le sujet merci. N'était pas simple, mais j'espère que nous aurons réussi à le rendre accessible et à vous en montrer tous les enjeux. Ils sont nombreux autour de la connectivité 5G dans la métropole toulousaine. Pour ceux qui voudront en savoir plus, il y a des précisions et des explications sur le site web de Toulouse Métropole, www.metropole.toulouse.fr. Ce numéro était animé par Éric Dupri, à la technique Christophe Aubry. Bonne fin de journée à tous et rendez-vous la semaine prochaine à la même heure.
Métropole et vous.
Métropole et vous.
Métropole et vous, une émission en partenariat avec Toulouse Métropole.